Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get là.
Bonjour, bonsoir et à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et ce soir, ici au studio de Transistor, on se retrouve pour parler des pauvres créatures de Yorgos Lanthimos qu'on vous a déjà plus d'une fois évoqué dans cette émission. Pour en parler, nous ne serons pas trop de quatre ce soir et on a avec nous Antoine, Nathan et bien évidemment Lucie qui ne pouvait manquer la critique de ce film. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Le programme ce soir est chargé et on passe sans plus attendre, on se penche sans plus attendre sur Pauvre Créature, un film de Yorgos Lanthimos dont Lucie, donc, tu recommandais la filmographie il y a quelques semaines en amont du visionnage de ceci. J'avoue humblement que je n'ai pas eu le temps d'en voir d'autres aussi. Celui-ci aura-t-il été mon premier? Difficile de juger de ce qui est spoil et de ce qui ne l'est pas, donc dans Pauvre Créature, donc arrêtez-moi si vous pensez que j'en dis trop. Mais nous suivons les aventures d'une jeune femme, ou plutôt d'ailleurs une expérience du docteur Godwin Baxter, affectueusement surnommée par elle God. Femme donc qu'il a ramenée à la vie après avoir découvert dans la Tamise son corps froid de suicidé. En elle, un fœtus bientôt prêt à naître dont il transplante le cerveau dans le crâne de cette femme qu'il nomme alors Bella. Pour observer ces, je le cite, progrès fulgurants, ce Frankenstein, le savant par la créature, met à contribution Max McCandles, un de ses étudiants, à qui il donne l'ordre de consigner tous les jours les divers comportements de Bella. Des sentiments naissent de diverses natures, mais l'envie de Bella de découvrir le monde l'emporte surtout et elle finit par fuir le manoir de Baxter avec un avocat donjuan et suffisant, Duncan Wedderburn. De là, c'est Mark Ruffalo. De là, son exploration d'une Lisbonne, d'une Alexandrie ou d'un Paris revisité dans une esthétique rétro-futuristico-victorienne, un peu steampunk en gros, son exploration du monde sous ses rapports de domination et de cruauté, son exploration enfin et bien sûr de ses désirs et de sa sexualité, parce que oui, il faut se préparer à voir Emma Stone baiser, c'est pas hyper poli, mais c'est le reflet de mon sentiment sur ce film que je trouve bête par sa vulgarité, ennuyeux par sa répétitivité. Et voilà, pour moi, c'est un film qui ne propose rien, qui ne raconte rien, c'est un film qui n'est rien et qui ne veut rien dire. À la sortie de ces saisons en enfer, sentiment exécrable d'avoir été un peu pris pour un con par le réalisateur qui a globalement adapté en 2h21 et en bruyant et en laid le même envie de gicler un garçonnet qui a juste envie de filmer ses fantasmes et qui a eu visiblement les fonds pour le faire et qui ajoute à son indécence déjà crasse de candolisme de les montrer en festival et à la majorité de spectateuristes possible. Je suis un peu comme le critique de La Cité de la Peur qu'on entend dans le générique de l'émission. J'écrirai rien sur ce film, c'est une merde, parce que j'ai à la fois beaucoup de problèmes avec le film et j'en étais pourtant sorti avec moins de notes qu'après Making of ou Et la fête continue. C'est dire. Voilà, maintenant que j'ai eu mon micro ouvert, c'était mon avis, je le partage. Et maintenant, bien que ça me peine, que du bien en soit dit, que pensez-vous de ce film? On commence avec toi, Lucie.
Si tu veux, on commence. Si t'as pas envie d'en parler.
Je vais faire un petit arrêt cardiaque.
Bon, on commence avec Antoine alors.
Non, mais je pense que je vais être le plus modéré. En tout cas, certainement plus modéré, parce qu'en effet, moi j'ai bien aimé, contrairement à Louis. Et contrairement à ce que tu disais sur la vulgarité du film, j'ai pas trouvé vulgaire. Je sais pas, je peux comprendre que ça puisse te déranger de voir des scènes de sexe à l'écran. Mais je trouve que les scènes de sexe n'étaient pas si.
Elles sont vaines.
Moi je trouve que ça s'inscrit bien dans le film. Vraiment, ça m'a pas dérangé une seule fois. Le seul moment qui a. Bon, déjà je dis. J'ai aimé le film, de bout en bout, je trouve que le film était, déjà, dans un simple vu, il est beau à voir, déjà, au-delà de toute analyse, quelque chose, c'est un film qui est beau à voir, avec des couleurs qui sont magnifiques, avec des endroits fantastiques, comme tu dis, steampunk, qui sont juste exceptionnels à voir, donc déjà, c'est un régal pour les yeux, selon moi, et dans son propos, dans la manière dont il va mettre en scène ce propos, je trouve que le film est assez intelligent, et surtout extrêmement agréable à regarder, drôle est beaucoup plus profond que ce que je pense tu en as compris, et profond non pas au sens de ça fait réfléchir, profond au sens de extrêmement touchant pour ce personnage qu'on suit et pour son entourage, donc ce Godwin et aussi son fiancé dont j'ai oublié le nom alors que je l'ai vu hier soir,
Max,
voilà. Et des personnages qui sont extrêmement touchants parce qu'ils sont en relief. Bon, là où je suis un peu d'accord avec toi, c'est sur le passage à Paris, où j'ai eu un peu de mal. Notamment avec cette phrase quand elle dit « je suis mon propre moyen de production ». C'est pas la vision que j'ai du féminisme sur accepter jouer le jeu d'un capitalisme absolument odieux qui est celui de l'industrie de la pornographie. Mais je peux comprendre ce chemin-là. Parce qu'on peut imaginer que c'est aussi une forme de libération que de contrôler sa propre sexualité. C'est pas comment je l'imagine, mais je le conçois. Tu vois.
Merci. Nathan ?
Bah, juste pour effectivement conclure sur... Enfin, conclure, j'espère, on en reparlera peut-être, mais ouais. Sur les scènes de sexe, donc je ne les ai pas trouvées particulièrement plus vaines que... que les grognements de Joaquin Phoenix dans Napoléon.
Ça mérite d'être drôle.
Ouais, bah alors drôle, c'est très drôle. Moi j'ai trouvé ça très drôle, pauvre créature. Je me suis vraiment marré à plein de moments. Mais c'est pas que drôle, c'est vraiment un récit initiatique, un Bildungsroman si on veut vraiment être très chiant. C'est vraiment un vrai conte philosophique, genre à la Candide, et qui se finit d'ailleurs dans le jardin. Que finalement Bella a passé en un sens tout le film à cultiver. Enfin, je trouve que c'est assez, assez juste et assez fin dans la manière dont c'est fait, sous couvert effectivement d'un conte initiatique qui est parfois burlesque et qui pour autant, je trouve, tombe jamais dans le graveleux ou dans la vulgarité justement. Et puis au-delà de ça, moi j'ai quand même quelques petites réserves sur le film, c'est que je trouve notamment que peut-être il est un poil long. J'ai trouvé qu'il y avait certaines séquences comme celle de la croisière par exemple qui sont peut-être un peu trop étirées. Mais au-delà de ça, moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le film. J'ai trouvé que visuellement, tu l'as dit Antoine, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et même visuellement, ouais, moi c'est des choses que j'ai peu ou pas vues au cinéma en vrai, dans la manière dont il continue à innover, non seulement dans l'écriture comme il l'avait déjà fait plutôt dans sa filmographie, mais aussi dans cette recherche esthétique qui donne lieu à des trucs vraiment, à un émerveillement de chaque plan que j'avais vraiment peu vu de cette manière au cinéma avant, quoi. Donc globalement, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Ouais.
Merci. Lucie ?
Alors, je pense que je vais commencer par répondre et ensuite, je vous donnerai mon avis. Mais oui, pour ce qui est du fait qu'il y a beaucoup de baisses dans ce film, c'est aussi un peu une critique que j'ai. La partie à Paris, ça devient un peu gratuit. C'est une suite de rencontres sexuelles comme ça. Tout ça pour dire que, effectivement, là où elle va gagner sa liberté, c'est dans le fait qu'elle ait son moyen de production sur le plan sexuel. Mais je vais développer, mais c'est pour le coup un des points intéressants du film parce que c'est pas ce qui est creusé le plus profondément quand on parle de féminisme, le fait à quel point les inégalités sont inscrites dans le corps de la femme et à quel point c'est intégré vraiment, mais à ces périodes-là et même maintenant, le rapport à sa sexualité, le rapport à la jouissance, le rapport à la maternité, etc. C'est un truc que le film va beaucoup discuter. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a on pourra parler du féminisme du film. C'est la productrice en l'occurrence, c'est Emma Stone, et elle a participé beaucoup à la création du personnage, mais par contre c'est adapté d'un roman écrit par un homme, c'est un homme, etc. Et je trouve qu'effectivement il y a une sorte de féminisme masculin à des moments, puisque tout se joue sur ce plan-là, de la sexualité débridée comme libération de la femme. Et par ailleurs, je trouve que le film, effectivement, met de côté un plan de son émancipation qui serait par exemple le fait qu'elle veut devenir médecin, qu'elle veut se libérer des contraintes de son père, etc. Qui est très peu finalement développé puisque le film prend l'oppression et les mécanismes à l'œuvre inégalitaires quand ça l'arrange, c'est-à-dire qu'à un moment elle va à suivre un cours d'anatomie, elle est en mini-jupe et tout, mais ça dérange personne. Par contre, on va ressortir la morale victorienne à d'autres moments, et à d'autres moments on l'oublie, donc on se dit bon bah alors c'est sur quel chemin qu'elle doit lutter en fait, et tout se joue vraiment au niveau du corps. Bon, du coup je vais donner mon avis avant. Alors, page blanche, vraiment je fais comme dans le film, c'est-à-dire qu'on reprend à zéro. Donc je suis une grande admiratrice de Lanthimos en effet. Donc j'étais exaltée à la sortie de Poor Things, qui est un Frankenstein revisité au féminin, campé par Emma Stone, promettant l'alliance parfaite entre deux piliers de l'étrange, Yorgos Lanthimos pour le cinéma et le genre gothique pour la littérature. Je m'explique. On a d'un côté un cinéaste issu de ce qu'on appelle la Greek Weird Wave, la nouvelle vague étrange grecque, portée par des films comme Attenberg de Rachina Tsangari, mais aussi surtout Canine, le second film du réalisateur, qu'il a fait connaître en remportant la palme d'un certain regard à Cannes. C'est un film qui abordait déjà des thèmes de la séquestration patriarcale, puisqu'elle était déjà orchestrée par un père de famille auprès de ses enfants dans leur petite villa pavillonnaire, subvertissant tous les codes de lecture du monde en leur enseignant un autre langage, une autre façon de percevoir leur corps, une autre façon d'avoir peur. Et même d'ailleurs dans ce film, le fils avait des besoins sexuels alors que les deux filles adultes étaient considérées comme, enfin étaient infantilisées. Et ça, c'était les parents qui l'implantaient. Et donc on a un cinéaste qui est capable de créer des réalités décalées. Et ça va de la diction des personnages, à leur façon de danser, jusqu'au matériau des costumes. Et ça, c'est dans tous ses films, il a vraiment une façon de travailler très proche du réel, mais toujours en le rendant étrangement familier. Et de l'autre côté, on a ce combo de l'étrangeté. On a le gothique, dont l'intérêt principal est quand même la mise en tension de l'archaïsme et de la modernité, toujours. Et il trouve un moyen de faire comprendre que le présent n'est pas progressif en parlant au passé, un passé conscient et postmoderne en quelque sorte, qui met à jour la permanence des systèmes de pression. C'est là où on se retrouve avec une société victorienne rétrofuturiste qui vient nous montrer un peu, enfin qui vient nous montrer que peu importe l'aspect moderne de notre époque, on reste notamment dans des représentations figées de la femme et de son corps. Et là-dessus, c'est un film extrêmement bien renseigné parce que sur tout l'imaginaire qui entoure le corps féminin, sur la façon dont la sexualité féminine est bridée, est vue comme monstrueuse dès lors qu'elle est jouissive, affranchie des règles du mariage, de la maternité, de la morale, le fait que même, on en parle du clitoris dans le film hein, un moment, mais il y a cette idée que le mâle est contenu là et que si la femme, disons, est maîtresse de ça, c'est une créature anormale puisque son but principal n'est pas de procréer. Mais donc de profiter. Et donc là, on a un personnage étonnant, une expérience qui est Bella, une page blanche, où elle renaît presque à l'état fœtal dans un corps de femme adulte, ce qui est très dérangeant au début, hein, je suis d'accord, mais on a besoin du dérangeant, c'est ça, un peu son esthétique, et qui exprime bien aussi l'idéal féminin de l'époque victorienne, qui est vraiment la femme-enfant. C'est-à-dire que la femme est considérée comme une créature qui doit être clâtrée et infantilisée, et donc on a l'idéal vraiment qui est cette femme, hein. C'est pour ça aussi que les hommes sont en tombe amoureux, ce qu'on peut trouver un peu étrange, parce qu'elle est quand même très enfantine, mais c'est parce que vraiment c'est la meilleure façon, enfin c'est l'idéal féminin de l'époque, ouais. Une personne qu'on puisse garder chez elle et qui n'ait pas conscience de la moralité du monde. Et le fait que voilà, elle découvre la masturbation puisqu'elle a un corps de femme adulte, mais qu'elle est ignorante de l'étiquette sociale et de tous les codes moraux qu'il y a autour et du fait qu'elle doit mépriser cet organe. Elle vit librement selon son bon plaisir, mettant à jour les contradictions masculines, puisque même le libertin Duncan, promoteur d'une sexualité débridée, essaiera de la contrôler et de la posséder. Donc ça, c'est très bien montré dans le film, c'est que tout le monde essaie, peu importe, même Max, enfin, il a une façon, c'est un autre archétype dans la morale victorienne, d'une façon de voir la femme. Et donc, moi, j'ai trouvé que Poor Things était une proposition cinématographique extrêmement riche, pertinente dans son aberration esthétique, puisque bon, elle a choisi un angle un peu niche pour traiter justement l'inégalité homme-femme, mais vraiment c'est limite du Françoise Héritier, c'est-à-dire au fond tout vient dans le sang, dans l'organe, enfin il y a quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé qu'on pouvait lui adresser en effet des critiques, enfin, moi j'ai trouvé un peu lourd et je suis d'accord avec les gens qui j'ai pu en discuter qui n'ont pas aimé, mais en même temps. Le style de l'antimo, sa bizarrerie qui est souvent jugée très âpre, très prétentieuse et tout ça, là je l'ai trouvée divertissante et beaucoup plus accessible. Et en cela, je suis contente que le film plaise et rafle des prix parce que d'un côté c'est un antimo un peu plus catchy que des trucs comme Canine ou Mise à mort du cerf sacré. Donc voilà, moi j'étais plutôt exaltée par ce film, même si j'entends qu'il puisse paraître un peu lourdingue par certains aspects.
Bah. Ouais, parce qu'en fait, je sais pas s'il manque effectivement le recul sur le reste de sa filmographie ou un regard plus global, parce que, comment dire, moi j'ai trouvé son esthétique pas aussi convaincante que vous le disiez là, franchement, assez ouais, prétentieuse par moments, putassière par d'autres. On peut rechercher, enfin, je trouve vraiment qu'il y a la recherche de l'esthétique qui est très intéressante et très belle, notamment dans le choix des costumes, là pour le coup, là ils sont vraiment, enfin, le plan d'ouverture est. Enfin, j'ai cru vraiment que, enfin, je me suis dit waouh, super, ça va être bien. Et puis, moi j'ai bien aimé les velléités un peu expressionnistes de la première partie, les escaliers noirs et blancs qui lornent un peu du côté de genre Katy Larry à Baby Jane, ou les créatures chimériques qui vont avoir du côté de chez Jérôme Bosch ou du savant fou dans South Park, ou vers Frankenstein, toutes itérations confondues, évidemment, tu l'as dit. comme vers la machine de Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou. Moi, j'ai vu ça immédiatement. Mais la force. Mais moi, je trouve que le film est le plus intéressant quand il propose des effets spéciaux naturels. Parce que quand on est dans du pur VFX, comme on dit, moi, je trouve qu'on verse parfois dans un vomi numérique. Moi, j'ai vraiment regretté le médiocre mais appréciable Ant-Man 3. Qui questionne la vision du réalisateur. Moi, je veux dire. Et peut-être que le film est arrivé avant toutes les images générées par intelligence artificielle, etc. Mais moi, j'y voyais juste une suggestion à Midjourney de Lisbonne. Je voyais pas de, je voyais aucune approche intéressante autre que pour la beauté du geste, etc. Qui est effectivement quelque chose de. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout contre la beauté pour la beauté, mais pas sur 2h21 sans qu'il ne se passe grand chose. Et effectivement, moi, le film m'a perdu à plusieurs moments. La croisière. Alors c'est peut-être fait pour, parce que le personnage de Bella s'ennuie elle-même profondément et veut s'en aller. J'avais envie en partie de m'en aller, mais d'une façon générale, il y a le côté un peu frustrant de bonnes idées, mais qui sont finalement pas tant exploitées que ça, et puis où naît en tout cas pour moi un ennui et aucun humour. Moi j'ai trouvé ça, mais alors d'une prétention et d'une suffisance du réalisateur. Quelques moments, il y a des trucs rigolos, mais souvent, je dois se partir des moments d'un embarras certain. C'est pas tout de sentir son fauteuil, comme dirait ma grand-mère que j'aime tant et que j'embrasse. Mais il y a des moments vraiment gênants. La scène de, je sais pas, la pomme, qui sert peut-être de pendant féminin à la scène de la pêche de Call Me By Your Name, je ne sais pas. Mais en tout cas, est longue, profondément. On pourra revenir sur les propos politiques et sociaux aussi, mais il me paraît. Disons que tout ce que tu dis, Lucie, c'est un film que j'aurais adoré voir, mais que je n'ai pas le sentiment d'avoir vu quand j'y suis allé jeudi, quoi.
Moi, juste pour revenir sur la partie sur Paris, c'est pas celle qui m'a le plus posé problème, notamment en lien avec la question du point de vue, effectivement. Du fait que c'est quand même un homme qui a fait le film et qui forcément fait aussi prendre distance par rapport à ce qu'il montre, et c'est pas le moment où ça m'a le plus dérangé. Moi, je l'ai trouvé plutôt réussi. Peut-être encore une fois, c'est une des séquences qui est un peu trop longue. Enfin, il y a un moment, on a compris l'idée quand il y a Damien Bonnard qui débarque au milieu de tout ça. Mais alors moi,
ça m'a réveillé. J'ai dit
incroyable. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu long, mais en même temps, j'ai trouvé le propos de toute cette section. Intéressante en vrai, moi j'ai peut-être dû, alors c'est peut-être donné beaucoup de crédit à Yorgos Lanthimos, mais il y avait limite des fulgurances du chapitre de King Kong Théorie de Dépente sur la prostitution, et je trouvais que c'était assez pertinent. C'est une question qui m'a plus dérangé à d'autres scènes, notamment effectivement la scène de la pomme dont tu parlais, qui pour le coup moi m'a mis assez mal à l'aise, effectivement, où je savais pas trop où me mettre, d'autant que, enfin, à ce moment-là du film, elle est encore très. Enfin, elle a vraiment genre 4 ans d'âge mental, quoi, à ce moment-là du film. Et je sais pas, tout ça combiné, ça mettait vraiment un côté très dérangeant, qui est peut-être volontaire et assumé, mais qui du coup, à ce moment-là, était très réussi, parce que j'étais extrêmement mal à l'aise. Après, sur un autre point, j'ai trouvé quand même que c'était sur le côté visuel du film, je comprends la critique que tu peux en faire par rapport à l'intelligence artificielle, tout ça. C'est vrai qu'il y a un côté un peu Midjourney, mais en même temps je trouve que ça marche plutôt bien et que c'est réussi. Moi j'ai tout simplement trouvé ça hyper hyper beau, hyper intéressant. Il y a une plasticité des images qui relève vraiment du surréalisme, quoi, avec des réminiscences de toiles de Van Gogh par moment ou autre. Enfin, il y a notamment pendant la partie de la croisière justement qui m'a beaucoup rappelé Annette de Léos Carax aussi. Il y a vraiment l'innovation visuelle. Et dans le même sens, il y a un travail que je trouve génial sur la couleur, avec la création de palettes pour chaque partie, pour chaque escale, pour chaque ville, et qui reflète à chaque fois l'état intérieur de Bella et l'étape de son cheminement initiatique. Par exemple, il y a les couleurs vivaces lors de la découverte et de la fascination à Lisbonne, puis il y a les couleurs chaudes assez agressives à Alexandrie, où elle est confrontée à la cruauté de ce monde qu'elle ne connaît pas, et puis après l'hiver et les couleurs froides lors des complications à Paris. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment hyper beau et intéressant visuellement,
avec aussi un côté vignette et carte postale qui est complètement assumé, mais en même temps remixé à la sauce LSD. Genre les plans sur Paris, par exemple, moi je les ai trouvés vraiment chouettes. Enfin, Paris qui est réduit à une seule place avec une espèce de Sacré-Cœur qui jouxte une espèce d'Opéra Garnier. Enfin, je trouve ça hyper... Enfin, ça va vraiment dans le côté conte philosophique, complètement hors sol, et qui, moi, a complètement marché sur moi. Et même au niveau des caméras, enfin, il y a quelque chose de très original. Il y a des plans larges quasi systématiques qui produisent quelque chose d'hyper intéressant au niveau du cadre, comme le plan de Bella filmé de dos à table à travers les barreaux de sa chaise, et où on a l'impression qu'elle est presque dans une cage d'oiseaux. Ou encore l'utilisation des caméras circulaires qui donnent l'impression d'observer le film presque à travers un Judas, ce qui crée vraiment, encore une fois, cet effet assez malsain, dérangeant, presque de voyeurisme. Et puis en même temps, j'ai trouvé ça aussi très drôle, quand même, par moments. Le personnage de Mark Ruffalo est parfois drôle tellement il est risible. Ouais. Genre, il y a vraiment du Ken dans son personnage, quoi. J'ai trouvé, genre, quand il se met à chouiner et qu'il lâche un I'm going to the casino, on dirait vraiment Ryan Gosling quand il parle de ses chevaux dans Barbie. Et aussi le running gag du personnage de Willem Dafoe qui est plus rafistolé que le docteur Finkelstein dans L'étrange Noël de Monsieur Jack à cause des expériences de son père qui raconte à chaque fois. Ça, à chaque fois, moi, ça me pliait de rire.
Mais c'est des personnages secondaires.
On les voit,
c'est plus de loin, quoi. Genre, et elle, comme elle est quand même à l'écran 90% du temps, on s'ennuie. Enfin, en tout cas, bref.
Par rapport à Emma Stone, justement, moi, c'est encore une fois un des seuls petits bémols que j'ai sur le film. Et c'est un peu à contre-courant de tout ce qui est dit autour de sa performance, qui est louée comme exceptionnelle, etc. Moi j'ai trouvé qu'elle était au moins dans la première partie du film un peu en force. Alors certes c'est aussi le rôle très compliqué quand même qu'elle a joué qu'il demande, mais ça me semblait quand même à la limite du cabotinage au début du film. Et je trouve que par exemple quand Margaret Qualley se retrouve dans la même situation plus tard dans le film, je la trouve plus sobre et plus juste. Mais après qu'elle progresse comme ils disent dans le film, personnage de Bella, je l'ai trouvé beaucoup plus juste et vraiment époustouflante à la fin du film, Emma Stone. Donc voilà, et puis même, au niveau des effets comiques, il y a aussi des effets un peu méta avec des ruptures dans la musique, par exemple. Et la musique qui est d'ailleurs, moi j'ai trouvé.
C'est un super plan.
Ouais, la bande originale est incroyable. Donc, globalement, moi j'ai encore une fois beaucoup aimé, quoi. Je tourne un peu en rond, mais.
Juste pour rebondir, moi, à l'inverse, moi, la musique, mais je pense que c'est un mouvement général dans le cinéma. Enfin, j'ai de plus en plus de mal à aimer des musiques de qui sont mises comme ça, mais toutes les 30 secondes, s'il vous plaît, arrêtez. Genre, laissez le silence un peu s'installer. Ou alors, si vous faites de la musique, pour le coup, il y a un passage de musique qui m'a beaucoup marqué et je voulais en parler. Je sais pas si vous voyez à Lisbonne, ce moment où il y a le contre-champ sur elle, où il y a la personne qui joue du fado derrière. Ouais. Justement, on profite. Juste une scène un peu gratuite, si vous voulez, qui ne fait pas avancer le scénario. Et moi, c'est ça que j'adore dans beaucoup de films, c'est quand on prend le temps de montrer des choses. Et surtout, c'est une scène qui est très belle. Elle regarde pour la première fois quelqu'un faire de la musique. Avec ses couleurs rosées, avec toute l'ambiance de Lisbonne fantasmée qui ressort. Et je trouve ça justement très beau. Tu disais que ça faisait Midjourney, ça faisait IA, mais je trouve ça vraiment très beau qu'un cinéaste, qu'un auteur propose une vision d'une ville aussi fantasmée et aussi assumée dans le fantasme. Avec ces espèces de tramways qui volent.
D'une ville et d'une époque aussi, en fait. Parce que
oui, c'est ça.
On est habitué à voir que la période victorienne dans des tons sépia, un peu grisâtres, toujours le même Londres. Je veux dire, là, juste au moins, on propose d'en faire un truc baryonné, je trouve ça dingue.
Oui, voilà.
Et on parle de barré blanc dans le film, vraiment. Mais...
Autre point, c'est vrai qu'on parle beaucoup du féminisme dans le film, mais il y a aussi, mais en plus, au second plan, ça parle aussi d'un peu de religion. Avec cette idée de personne qui est capable de créer la vie, qui est le personnage de Godwin et qui se fait littéralement appeler God. Et ça, pour le coup, qui fait référence au premier... À Frankenstein, j'allais dire. Et mais à l'adaptation dans les années 30, où il y a ce docteur fou qui dit c'est en vie, enfin, je sais ce que c'est que d'être Dieu. C'est absolument puissant. Moi, je trouve ça extrêmement puissant comme manière de faire référence à ça dans le film. Moi, j'ai adoré. Oui. Et j'aurais aimé d'ailleurs que ça parle un peu plus de religion à certains moments, non pas en termes d'adaptation sociale de la religion, mais vraiment en termes de vie, de création. Qu'est-ce que c'est que de créer ?
Mais tout à fait, la première partie en noir et blanc est pas mal, hein, en soi. Je veux dire, surtout a posteriori par rapport, moi, enfin, dans mon expérience de du film, par rapport à la suite. Mais,
Oui, d'ailleurs, amusant sur Godwin, c'est le nom du père de Marie Shelley, en fait, celle qui a écrit Frankenstein, elle l'a donné au docteur. Donc, belle coïncidence. Mais oui, enfin, au sujet de la création, ce qui est, je trouve, l'idée drôlatique et horrible, en fait, du film, mais qu'elle exploite, c'est que le seul moyen pour une femme d'être sa propre création, c'est d'être sa procréation. C'est-à-dire qu'elle est à la fois mère et fille à cette idée-là, puisqu'elle a, elle est son fœtus, elle est adulte. Et en fait, c'est comme ça qu'elle peut s'enseigner des choses et apprendre à se créer, parce qu'elle combine les deux. Mais du coup, c'est une espèce de, d'aberration paroxystique pour parler de ça, mais qui en effet est très dérangeante. Et oui, au sujet de... Enfin, je sais pas, je rebondis sur ce que vous disiez, mais effectivement, les personnages les plus drôles, c'est Mark Ruffalo et tout, mais contrairement à Barbie, vous mentionnez Ken, je trouve qu'on rit des hommes, enfin, ils sont ridicules. Alors que dans Barbie, ils sont ridicules, mais en fait, on a envie de les voir à l'écran. Genre, c'est eux qui nous intéressent. Et les femmes n'étaient pas drôles, et c'était un peu le problème de Barbie. Fin... Mais du coup, c'est plutôt un point positif du film. Hein. Toute la salle riait un peu de ces hommes qui n'arrivaient pas à contrôler cette femme. Enfin, c'était assez, assez marrant. Mais ouais, je ne sais pas sur quoi on...
bah,
relancer.
Moi, pour revenir sur la partie un peu politique, mon problème, c'est la caractérisation des personnages. Ça permet de rejoindre un peu la question du féminisme et de la politique. Il y a une caractérisation qui est hyper légère globalement de tous les, de quasiment tous les personnages sauf son personnage principal. J'ai une meuf à un moment qui lui dit I'm a socialist,
oui,
et
oui,
c'est
ça,
tout.
C'est...
On s'embarrasse pas de plus. T'as juste l'impression, ouais, voilà, que l'antimos il est là, il dit t'as vu, elle est politisée. Et puis ça revient. Enfin, je veux dire, on enfonce vraiment bien le clou.
Ouais, du coup, c'est une blague dedans.
Ouais, mais genre, du coup, ça sonne juste faux, je trouve. Parce que ces quatre répliques, c'est as a socialist, I agree. Et ben, cool. Pourtant, c'est-à-dire que, pareil, à un moment, Bella, elle lit l'éthique de Spinoza, et à mon avis, ça méritait mieux que ça. Je veux dire, ça sert juste exactement comme Belle du Seigneur à Patrick dans Camping 3 pour avoir l'air intelligent et dire aux spectateurs, oh là là, elle lit des gros livres très compliqués. Et puis, effectivement, moi, tu parlais de le problème de la maison close. C'est un peu un socialiste tout pourri là, parce que sa liberté et sa libération, c'est vraiment la maison close. Parce que elle, dans sa fabuleuse poésie, elle a un point de vue tout neuf, tout naïf, elle a le choix, mais les autres filles autour, t'as pas vraiment l'impression, parce que là, globalement, t'as plutôt l'impression que ouais, Lanthimos, il épouse le point de vue, la vie de la tenancière. Que il faut des maisons closes comme ça, et que parce que les autres filles autour de Emma Stone, globalement, elles ont, enfin, et à l'époque victorienne, c'est pas forcément un choix, à mon avis, qu'elle se trouve là.
Ouais, pas le choix sur les tarifs, en fait.
Voilà, c'est exactement. C'est vraiment réglé avec donc cette scène étrange avec la tenancière qui ressemble à Elise Moon dans un mauvais épisode des Petites Amies d'ailleurs, hein, mais qui sont. Elle est libre.
T'as parlé des punchlines, mais.
Mais parce que. Je me suis. J'ai plus pensé à des punchlines qu'à des trucs à dire. Non, mais c'est vraiment réglé en mode. Elle est libre, alors ça va, et on possède nos propres moyens de production, etc. etc. Donc bon, je veux dire, c'est vraiment. Un propos, t'as l'impression qu'il s'est rajouté en plus pour éviter qu'on dise juste à Lanthimos que c'est un gros perve et qu'il a filmé ce qu'il voulait, parce que le propos, il est banal, je trouve.
Non, mais là-dessus, pour le coup, on rejoint Candide, c'est-à-dire que on comprend plus loin qu'elle à ce moment-là. Enfin, on voit qu'elle se fait exploiter, que l'autre, elle lui dit des trucs. Qu'elle a des vieilles stratégies nulles, là, mais. Enfin, on comprend que les autres, elles ont pas le choix. Enfin, moi, je trouve que.
Oui.
On sait qu'elle est plus naïve que le reste du monde, on n'est pas avec elle sur ce point-là. Encore tout appris. Et du coup, il y a ce truc un peu risible d'être face à la cruauté du monde, mais d'une façon à grosse ficelle, hein, même quand elle voit ce que c'est que la cruauté et que le cynique lui montre. C'est pareil, c'est pas la meilleure étape pour commencer ce parcours-là du personnage. Mais pour le coup, là, elle a un cran de retard. C'est aussi ça qui est intéressant, je trouve.
Ouais, alors ça se comprend a posteriori, mais je trouve que la mise en scène, la manière dont il va montrer Emma Stone ne reflète pas trop cette idée. Là, au contraire, je trouve que c'est filmé assez de manière positive.
Non, mais je suis d'accord, même sur le truc de le socialisme, là, ça reste une blague. Mais c'est d'ailleurs hyper étonnant, parce que le livre dont c'est adapté, enfin, pour ce que j'en ai lu, mais c'est pour le coup vraiment un livre politique qui est censé faire une parabole sur la colonisation de l'Angleterre par rapport à l'Écosse, enfin, un truc qu'on retrouve pas du tout là-dedans. Mais du coup, c'est un livre, hyper politisé, qui utilise, disons, la métaphore de cette femme page blanche pour essayer de symboliser l'Écosse qui a un peu oublié les dommages qu'on lui a fait subir et le contrôle des corps qu'il y a eu sur les femmes, sur les ouvriers, sur même Scottish qui était accusé d'être un peu trop féminin parce qu'il portait des jupes, quoi, entre autres. Mais enfin, il y a tout un sous-texte là-dessus. Et normalement, dans le parcours initiatique de Bella, il y a l'apprentissage du socialisme, l'apprentissage de l'exploitation de l'Angleterre sur l'Écosse, etc. Et à la fin, elle devient à la fois médecin et elle agit politiquement. Elle rencontre des hommes de plus en plus expérimentés sur ce plan-là. Alors que là, on a juste un vacciné qui raconte deux, trois banalités. Donc là, je pense que ça va être plus intéressant. Et en gros, ça choisit que de garder le corps. C'est pour ça que moi aussi, j'étais un peu étonné en voyant le film.
Ah oui, on a quand même le moment avec le nihiliste suprême sur la croisière qui ne croit en rien, qui dit nous sommes là pour souffrir, et qui fait vraiment le doomer par excellence, quoi. C'était un peu lourd. Bah, de manière générale, la scène sur la croisière, un peu plus de mal aussi.
Mais ce que je voulais dire, c'est que le livre finit mal, je crois, parce qu'elle est hospitalisée à la Salpêtrière, donc l'endroit pour les hystériques où Charcot montrait les femmes, etc. Ce qui est plus ou moins suggéré dans le film avec l'histoire du mari là, qui ressort, enfin tous ces préceptes, enfin tous ces imaginaires là qu'on avait de la femme hystérique quand elle est un peu trop libérée sexuellement. Bon, c'était aussi une maladie, mais le fait qu'il veuille la contrôler sur le plan sexuel, enfin je veux dire là, c'est là où se cache, où se montre la monstruosité telle qu'elle est vue pour la femme à cette époque. Et du coup c'est intéressant que dans le livre ce soit le point final, puisqu'elle peut pas en fait continuer comme elle est aussi libre, parce qu'on va forcément la mettre dans cette case là et donc là effectivement, bon, cette petite fleur dans un jardin où elle a des lunettes de soleil, je suis d'accord que c'est un peu dommage, et moi j'attendais aussi de voir la façon dont elle prend sa place dans le monde des hommes, en étant médecin etc, qui n'est pas vraiment traité. Donc finalement on a que le bordel et le fait qu'elle arrive à contrôler les jeux sexuels qu'elle mène, et c'est là où elle tire un peu son épingle du jeu, et elle choisit en pleine liberté d'épouser un homme. Mais effectivement, j'ai trouvé ça un peu dommage et un peu réducteur sur la fin. Là, je vous rejoins.
Bah, moi, je suis d'accord qu'il y a un côté un peu simpliste de la caractérisation de la plupart des personnages et de certains propos politiques aussi. Mais après, j'ai pas trouvé que c'était une forme de lourdeur ou que c'était particulièrement regrettable sur le principe, dans la mesure où je trouve que ça rentre assez bien dans les codes du conte philosophique. Enfin, moi, je l'ai vraiment vu comme ça, et ça m'a pas dérangé dans ce sens-là. Enfin, par exemple, qu'elle se définisse comme une socialiste et puis c'est tout. Bah, parce que voilà, enfin, c'est son attribut dans le film. C'est ce qui. Enfin, ça s'arrête là, quoi. Il y a pas besoin de plus en fait pour le propos du film. Et enfin, ça m'a pas plus dérangé que dans plein de contes philosophiques de ce genre où des personnages sont très peu caractérisés aussi, ou de manière très simple. Et je trouve pas que ce soit dans l'absolu regrettable. Pareil, le fait qu'elle... parce qu'au début, moi, ça m'a un peu dérangé, c'est vrai, la manière dont elle est confrontée pour la première fois à la cruauté du monde, à Alexandrie, et où il y a effectivement le personnage de... Je sais plus comment il s'appelle, mais bah, le nihiliste suprême, comme tu dis, qui se caractérise, pareil, par ce seul trait de caractère, que bah, il croit en rien, qu'il est... Bref... Ça m'a un poil dérangé parce que je me suis dit que effectivement c'était vraiment au ras des pâquerettes, quoi. C'est elle voit des enfants pauvres et elle pleure et elle est très triste, et en fait là où je trouve que effectivement je vous rejoins sur le fait que ça pose problème, c'est que ça va pas beaucoup plus loin que ça après, quoi. C'est-à-dire que je pense pas que ça soit problématique sur le plan des postulats parce que ça rentre dans les codes de ce que le film entend être. Après ça rejoint un problème plus large aussi de où est-ce qu'il aboutit, et je te rejoins aussi Lucie sur la fin que j'ai trouvé pas forcément hyper intéressante. Alors c'est cool que ça finisse bien en vrai, vu tout ce qui aurait pu se passer mal se passer, mais je suis d'accord que du coup c'est pas porter le film au niveau de propos politiques, encore une fois, qu'il aurait pu prétendre avoir, quoi.
Après, moi, tu vois, tu parles de conte philosophique, et c'est un peu ce que j'ai lu aussi dans la bonne presse qu'il a eu, mais je trouve pas qu'il soit si philosophique que ça, hein. En fait, je le trouve pas très ni profond, ni, enfin, déjà le fait qu'effectivement il s'arrête, il arrête la portée philosophique qu'il entend avoir à peu près le moment à Alexandrie où elle voit des bébés morts, et contraste, gros sabots, bébé mort au billet de banque. Mais j'ai pas été du tout convaincu, même comme je peut, enfin, un conte philosophique traditionnel voltairien peut me convaincre. J'ai pas été emporté par la narration justement du film, comme je peux, la narration d'un conte voltairien peut éventuellement emporter son, ou de Swift, ou peu importe, peut emporter son lecteur ou sa lectrice. Mais et là, en l'occurrence, ouais, en fait, je suis un peu, j'étais un peu pendant tout le film aussi. Il y avait cette distance, enfin, il y avait le côté, il avait son côté simpliste, mais qui en même temps charriait des fois des choses tellement problématiques que c'était difficile de passer outre pour apprécier juste le côté simplicité d'un conte philosophique. Et ouais, moi je veux dire, j'avais du mal enfin, on m'avait vraiment vendu ce film comme féministe et tout, et je me suis demandé, mais à quel moment est-ce que filmer Emma Stone comme ça, complètement décérébrée et filmée dans toutes les positions possibles, d'un regard masculin, enfin, par le regard masculin et féministe, parce que le regard, voilà, est de bout en bout celui d'un homme et tout, et malgré l'implication d'Emma Stone dans le film. Et je vois, ouais, mal la libération et l'émancipation par l'assouvissement des fantasmes des messieurs dans la maison close, quoi. Il n'y a pas de trace de féminité. Et tu parlais du modèle de la femme-enfant. J'y ai pensé aussi, et puis j'en discutais avec une amie et tout, mais il n'y a pas de recul sur la mobilisation de ce thème, enfin il y en a aussi peu qu'il y en a dans Le Cinquième Élément, avec Lilou, qui est aussi une femme-enfant en soi. Et là, il n'y a pas une maladie vénérienne, il n'y a pas une trace de coup de la vie, et même ses cicatrices sont esthétisées comme celles de son opération dans le film, donc j'avais trop de problèmes dans le film pour être vraiment emporté d'une façon générale. Même le passage à la couleur en soi, déjà passer le passage à la couleur via le sexe, c'est le point de vue du réalisateur, mais en plus ça c'est même pas genre juste le plaisir qu'elle a découvert seule, mais c'est sa relation avec un mec, et là hop, d'un coup ça devient, en plus bon, bah, pas le, enfin c'est quand même quelqu'un qui l'a enlevé, mais veut dire, et là le monde devient en couleur, et c'est quelque chose qui, enfin bref, ce qui ouais, mais qu'est-ce qu'il y avait un autre, oui, sinon sur la fin, je voulais aussi, alors pas sur le dernier plan pour le coup, mais sur l'ultime péripétie que je pense qu'il faut, enfin, vaut mieux pas dévoiler, parce que moi j'avais été assez surpris, mais en bien pour le coup, parce que autant effectivement je trouve que le film est trop long et que ça rallonge l'intrigue, mais que c'est suffisamment inattendu et intéressant pour être pardonné, c'est-à-dire, enfin, ce qu'on apprend, ce qu'on découvre tout à coup, et rajoute tout, et j'ai dit ah ouais, ah c'est pas si mal, mine de rien, ouais, je trouve que c'est assez malin de la part du réalisateur.
Mais à propos des contes philosophiques, ce qu'il y a, c'est que quand on finit, tu dis j'en sors plus convaincu quand je finis Voltaire, enfin bon, mais en fait Candide, il revient chez lui à la fin et il va élever des moutons, et elle revient chez elle et elle va élever des moutons, enfin, c'est-à-dire que c'est le parcours, c'est le lecteur qui le fait à travers ce qu'il a pu voir et ce qu'il a pu comprendre, mais le personnage en soi, il reviendra toujours chez lui avec ses trucs, et il choisira d'ignorer des aspects du monde, la cruauté d'autres, et elle choisit de vivre un peu sa vie, mais au fond, je veux dire, ça reste simpliste, et après c'est le lecteur qui voyage et qui en tire un peu ses conclusions. Donc c'est vrai que là ça me choque pas, parce que ça fait partie en fait de la forme même du truc, mais oui, à propos de, enfin, je trouve que le film a du recul sur même la figure de la femme-enfant, tout ça. C'est juste que, pareil, c'est pas un truc qui va être forcément traité, puisque c'est pas les hommes qui vont faire retour dessus, mais à un moment, elle le dit, enfin, elle fait comprendre à Max, il a beau être gentil, elle lui dit, bon, vous avez essayé de me contrôler tout, maintenant, je fais mes choix. Enfin, je veux dire, c'est quand même, c'était il y a pas si longtemps, mais sur une durée très restreinte de temps, puisqu'elle grandit très vite dans sa tête, elle arrive à leur faire comprendre que d'un coup, elle est adulte, et là, ils se rendent compte que peut-être, ils ont un peu sous-estimé la personne dont ils avaient la charge. Et là aussi, revenir au foyer peut-être sert un peu à ça. Hein. Même Godwin, il s'excuse et il voit bien qu'il a fait deux fois la même erreur. C'est pour ça que Margaret Qualley, Felicity, elle est beaucoup plus bêta. Ils ont essayé de vraiment même pas lui apprendre le langage, quoi, pour arriver à la contrôler. Et c'est d'ailleurs un des points que je trouve dommage du film. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette deuxième. Enfin, ouais. Ça aurait pu être enlevé, ça aurait pas changé grand chose à l'histoire. Donc là-dessus, j'étais un peu en train de me dire, mais du coup, ces personnages n'ont rien appris. Mais pour le coup, on peut comprendre qu'à la fin, ça va être peut-être le cas si elle prend en main les choses. Mais voilà. Mais en tout cas, le passage à la couleur, pareil sur l'orgasme, je trouve qu'on la filme, elle, en plan épaule. Enfin, c'est pas non plus du male gaze, je veux dire. On voit que c'est elle dans sa jouissance. Là, on voit pas Mark Ruffalo et tout ça. Et donc, enfin, je la voyais pas trop comme un jouet sexuel dans cette scène-là. Et pour le coup, c'est sûr que c'est réducteur de voir sa liberté dans toute cette partie du film au fait qu'elle veut que expérimenter du plaisir avec son corps, etc. Mais il y a un moment où elle s'en détache un peu, elle veut plus du tout coucher avec Duncan parce qu'elle pense à autre chose et qu'elle veut discuter philosophie avec ses amis dans le bateau. Enfin, il y a quand même un trajet là-dessus, quoi. Donc voilà, j'aurais du recul là-dessus.
Et ben voilà. Conclusion pour Pauvre Créature, Poor Things, qui sont... malgré tout en salle depuis le 17 janvier et c'est signé Yorgos Lanthimos et pour vous faire votre avis, eh bien, allez le voir quand même en salle pour le coup parce que je pense que indépendamment de tout ce que je peux penser, c'est mieux de le voir en salle que mieux de le voir en salle que sur un petit écran. Nous vous donnerons nos conseils. On commence avec Lucie.
Oui, alors sponsor Champ Libre encore. Bonsoir à tous. On fait un festival la semaine prochaine. Voilà, festival sur le thème de l'amitié au cinéma qui s'appelle Bande à part. Et on a une sélection assez variée de films puisqu'on commence avec un ciné-concert de The Kid de Chaplin, puis il y a Francesa de Noah Baumbach qui est le film que je présente, qui est vraiment une super comédie new-yorkaise avec un personnage de femme hyper attachante qui réinvestit plein de topos de la nouvelle vague, des 400 coups au baiser volé. Et on a The Breakfast Club pour s'amuser un peu en hors de colle. Puis Les Affranchis avec Une amitié de mafieux parce qu'on est toujours content de voir De Niro et Joe Pesci. Et enfin Le Week-end, deux films dans une séance de minuit avec All Joy de Kelly Reichardt, donc une amitié masculine vu par une femme, plus en douceur. Leningrad Cowboys America qui raconte une épopée d'un groupe de rock un peu catastrophique, c'est un Akikoris Maki. Et on finit avec Nous nous sommes tant aimés, donc grande fresque italienne des Torrescola. Donc voilà, il y a à boire et à manger. Et on a mis beaucoup de cœur, de budget et de temps dans cette programmation, donc je vous invite tous à aller voir ça.
Merci beaucoup, le conseil de Nathan.
Alors moi je voulais conseiller un film qui est encore en salle, qui est sorti il y a déjà quelques semaines je pense, donc... Il faut se presser pour aller le voir. C'est Winter Break de Alexander Payne qui est vraiment trop bien. Enfin, en fait, j'ai pas grand-chose à en dire, juste c'est trop bien. C'est vraiment très réconfortant. C'est hyper... j'ai pas grand-chose à en dire. Encore une fois, j'ai adoré. Alors, le pitch, c'est juste, pour faire vite, Paul Unham, qui est un professeur dans un lycée pour garçons, qui à l'approche de Noël doit rester sur le campus pour superviser les élèves qui y restent. D'ailleurs, le titre original, c'est The Holdovers, donc au Québec, ceux qui restent. Le film va se construire autour du trio qui constitue avec l'élève, un élève qui s'appelle Angus et la cuisinière de l'établissement qui s'appelle Marie. Et le trio est improbable mais génial. Les acteurs sont tous excellents, notamment, je vais complètement écorcher son nom, c'est sûr, mais Davine Joy Randolph, donc, qui joue Marie, et qui a eu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle, qui est favorite pour l'Oscar, et j'espère qu'elle l'aura, parce qu'elle est exceptionnelle. Et puis Paul Giamatti aussi, si ça ne tenait qu'à moi, il aurait l'Oscar au nez à la barbe de Cillian Murphy. Il est génial, hyper touchant, détestable et touchant par moments, il faut vraiment aller voir ce film, c'est encore une fois hyper réconfortant et je pense qu'il va pas rester encore très longtemps à moins qu'il y ait encore une fois un succès aux Oscars. On croise les doigts, voilà.
Merci Nathan, je suis heureux qu'on se réconcilie autour de ce film parce que oui, il est fabuleux. Et le conseil d'Antoine ?
Alors, moi c'est une surprise. C'est un film encore en salle. En fait, je m'attendais... Bon, le film c'est Iron Claw. Je m'attendais à voir quelque chose de vraiment nul, hein, de vraiment mauvais. Vu les bandes annonces, etc. Mais finalement, je suis allé avec un ami sur un coup de tête. Et il y a des très bonnes scènes. Franchement, bon, il y avait des passages oubliables dans le film, mais il y a les certaines scènes, notamment la manière, comme je t'ai dit au début, de filmer le corps très musclé.
je trouvais ça tu vois, un peu comme les vases, les fresques grecques, tu vois, il y avait quelque chose de profondément héroïque dans cette famille qui subit une tragédie affreuse. Donc ça, franchement, ça se regarde, c'est plutôt pas mal, et pour passer un bon moment, pour se détendre, je le recommande, il est encore en salle.
Merci beaucoup. Enfin, mon conseil à moi, c'est un livre que je suis en train de relire en ce moment, et je le conseille parce qu'il arrive, à mon sens, à faire un peu ce que parvient pas à faire Pauvre Créature, savoir raconter un récit féministe centré sur une femme qui refuse les codes du monde dont le propos social et politique est peut-être parfois très, voire trop appuyé, mais il ne cède pas par endroits à de très beaux moments de nuance. C'est Les cloches de balle de Louis Aragon, un roman de 1934 quand même, où on lit notamment le parcours de l'héroïne romanesque magnifique qui est Catherine Simonidze. On n'est certes pas dans une époque victorienne réécrite, mais le roman a pour lui le réalisme des années 1900 et 1910, où va pourtant s'affirmer la volonté de et l'individualité féministe de Catherine, qui refuse les conventions sans pour autant qu'elle ne soit la femme enfant. C'est extrêmement drôle. Bon, on peut sauter les parties vraiment où on sent qu'il est militant du PC à rappeler les conditions de la grève des taxis de 1912, mais à part ça, c'est une prose riche, intelligente, d'une modernité incroyable pour l'époque, et la préface d'Aragon est frappante à cet égard. C'est mon conseil pour décider les derniers indécis, dernières indécises. C'est le premier roman du cycle Le Monde Réel, qui se clôt avec les communistes, mais en fait surtout avec Aurélien. Voilà, donc c'est un peu Aurélien sans l'amour. Qu'en reste-t-il? Bah, beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser.
Ah, attends, juste oublié, en fait, en suggestion, Los Colonos, les colons aussi. Je sais pas s'il est encore en salle, mais c'est vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je trouve que c'était une masterclass. Voilà.
Super, donc, merci Antoine. Heureusement que tu le dis. Parce qu'effectivement, il est apparemment très bien, j'ai pas encore vu, mais oui. Bon, bien, tous ces conseils, y compris le conseil in extremis d'Antoine, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les trois, Lucie, Nathan, Antoine, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la zone d'intérêt. Comme d'habitude, ce sera directement disponible sur transistor.fr, sur toutes les plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.